Je suis très heureuse d'être là devant vous ce matin et de vous partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'ai vraiment reçu une conviction par rapport à ce message ce matin. C'est un message que j'avais donné en partie il y a quelques années pour les personnes qui étaient avec nous au tout début de l'Église. Mais voilà, j'ai vraiment senti dans la semaine, je priais, puis je disais, mardi soir, on a prié ensemble avec Matt, j'ai dit, mais j'ai besoin d'une révélation, parce que je pourrais parler de ça, puis de ça, puis de ça, il y a plein de choses que le Seigneur a déposées sur mon cœur. Et puis mercredi, j'ai eu ma révélation, j'ai dit, ok Seigneur, là je ne doute plus, et j'y vais. Et j'espère que vous êtes prêts. Alors vous savez, peut-être que vous êtes là pour la première fois, peut-être que vous venez depuis qu'on a commencé, il y a 9 ans. Et en fait, quand on a commencé l'Église, vous connaissez certainement notre vision en 3 points. Adorer Dieu, apprendre à vivre comme Jésus et aimer et servir notre ville. Les 3 A, on parle souvent de ça. Et puis, on a aussi décidé d'une culture. Qu'est-ce que c'est une culture ? En fait, c'est comment on va vivre tout ça. Parce que c'est super d'avoir une vision, c'est indispensable, mais c'est tout autant important d'avoir une culture, d'être intentionnel sur comment on va vivre ça. Parce que sinon, moi je ne suis pas une jardinière, hier j'ai eu le privilège d'aller dans le jardin des Bousquets, et il y avait leur voisine de jardin qui était hyper contente de nous partager plein de choses, et ça c'est telle plante, et là tu mets ça pour empêcher que les taupes viennent, j'ai appris plein de choses. Moi, je ne sais pas mon don, même si je trouve ça passionnant. Mais vous savez tous comme moi, même sans être férus du jardinage, que quand on ne fait rien dans notre jardin, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des mauvaises herbes qui poussent. Pourtant, on ne les a pas semées. En fait, c'est un petit peu ça l'image de la culture. C'est que si on n'est pas intentionnel dans ce qu'on va semer, dans comment on va vivre les choses, eh ben, il y a des mauvaises herbes qui vont pousser. Et c'est pour ça qu'on choisit d'être intentionnel. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'on y arrive tout le temps, mais on a choisi 4 valeurs fondamentales pour notre Église. L'honneur, de vivre des relations dans l'honneur. Honorer, c'est reconnaître la valeur qu'il y a dans chaque personne et la traiter selon sa valeur. Il y a l'authenticité, être vrai les uns avec les autres, être vrai dans les relations. Il y a le courage, faire preuve de courage, faire preuve d'audace, de foi. Et puis, il y a la famille. Et ce matin, je vais vous parler de la famille. Parce que la famille, c'est Dieu qui a créé. C'est le Dieu de la famille. On parle de la famille céleste, Dieu, Père, Fils, Esprit, hein, qui sont toujours en unité, en interaction les uns avec les autres. Et la famille, c'est l'idée de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a voulu qu'on soit dans les relations les uns avec les autres. L'Église, c'est une famille. Parfois, dans une famille, c'est pas facile. On se dispute. On choisit pas. Hein. Souvent, on dit on choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Bah ouais, l'Église, parfois, ça se frotte. On n'est pas d'accord. Il y a des tensions. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si on n'est pas d'accord, on peut s'aimer quand même. Et on peut quand même être ensemble. En fait, on n'a pas besoin d'être d'accord pour être dans l'unité. Et dans la famille, je pourrais vous parler de plein de choses et je pense qu'on aura l'occasion de faire d'autres messages parce qu'il y a plein de choses à dire. Mais moi, ce matin, j'avais envie de vous parler des enfants. Des enfants et de la jeune génération, on va dire, enfants-ados, ok ? Et vous savez, quand on a démarré l'Église il y a 9 ans, on était 4 adultes et 3 enfants. Donc déjà, il y avait déjà un gros pourcentage d'enfants dans la fondation de l'Église. Et puis rapidement, en fait, il y a eu autant d'enfants que d'adultes. Les premières années, on était à peu près 30 adultes pour 30 enfants. C'était rigolo, je me souviens de cultes ici, quand on faisait les cultes les après-midi, où le moment du message, il restait 10 personnes dans la salle parce qu'il y avait 30 enfants derrière avec plein d'adultes derrière. Et ça a toujours été, en fait, je réalisais ça, je disais ça à Matt, en fait, la présence de la jeune génération, ça a toujours fait partie de notre histoire en tant qu'Église. Et je crois vraiment que ça fait partie de... C'est l'identité un petit peu de notre Église. On a différents... On parle en ce moment, Dieu nous parle par rapport à qu'est-ce que c'est l'ADN de notre Église, qu'est-ce qui nous caractérise en tant que communauté connecte à Montélimar. Et je crois vraiment que la présence de la jeune génération, ça fait partie de notre identité, ça fait partie de notre ADN. C'est pas quelque chose qu'on a choisi, qu'on avait même anticipé, je pense, quand on a démarré l'Église, quand Dieu nous a appelés. Mais c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a des gens qui viennent pour la première fois, ils sont frappés par les enfants qui sont là, qui dansent, il y a de la vie, etc. Et Et en fait, je pense que parfois, on ne réalise pas. Moi, j'ai grandi personnellement dans une église pendant la période de mon adolescence, en tout cas, je viens d'une famille, on est 4 enfants. Et en fait, on était les seuls enfants dans l'église, la plupart des dimanches. Puis de temps en temps, il y avait des cultes, on appelait ça les cultes famille, où là, il y avait pas mal de familles qui venaient. C'est une église assez traditionnelle. Donc voilà, et je souffrais de ça, je m'ennuyais, j'avais pas forcément envie d'aller à l'église. Et on se rend pas compte parfois du privilège en fait d'être une église où il y a la vie, où il y a toutes les générations. Et pareil, au début de l'église, donc on était beaucoup de jeunes familles avec de jeunes enfants. Et je me souviens qu'à un moment donné, on a prié, on a dit « Seigneur, il y avait les brousses qui étaient avec nous depuis le début ». Mais on a prié, on a dit « Seigneur, on a besoin de générations aussi au-dessus. On n'a pas envie juste d'être entre nous et tout. On a envie qu'il y ait toutes les générations qui soient représentées parce qu'on a besoin des uns des autres. On a besoin de ceux qui ont plus d'expérience, plus de maturité. » Et on a prié pour ça. On a vraiment prié pour ça en équipe. Et le Seigneur a envoyé des personnes des générations au-dessus de nous. Et merci Seigneur parce que Dieu, c'est le Dieu des générations. Dans la Bible, souvent il y a écrit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est un Dieu de génération, le Dieu de la famille. Et donc, on a vraiment la volonté de vivre l'Église comme une famille, où chacun, chacune a sa place, où chacun, chacune est importante. Peu importe son âge, peu importe son statut, peu importe son genre, on a envie que chacun puisse avoir sa place. Comme Michel l'a dit, on est un corps, et chacun a sa place, chacun a son importance. Et on a aussi la volonté, vous savez, je vous raconte juste une anecdote avant de dire ça. Donc au début de l'église, on a démarré dans notre salon, quand on faisait les cultes. Et puis voilà, on avait des temps de louange comme ça, puis des temps d'enseignement. Et puis moi, je me rappelle passer des temps avec les enfants dans nos chambres. on faisait les groupes d'enfants dans notre chambre avec Matt, dans la chambre des filles et tout, avec les enfants, pour avoir des temps comme ça un petit peu plus privilégiés. Et puis après, on a eu un premier bâtiment et rapidement, il a fallu s'organiser parce que c'était un petit peu le bazar parfois. Et puis, on avait deux salles. On était dans un espèce de hangar, pour ceux qui se souviennent. Et puis, il y avait cette espèce de hangar et puis notre salle de à peu près 25 mètres carrés. À peu près. Et donc, dans cette salle-là, on prenait un temps avec les enfants. Et puis, souvent, on sortait... avec Hello, souvent, on y était. Et on sortait du dimanche, on n'en pouvait plus. On était au bord du burn-out. Et donc, après, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, il y avait nous, on avait des tout-petits. Puis, il y avait les ados qui s'ennuyaient et tout. Enfin, voilà, c'était un peu chaotique. Une période, on a envoyé les ados, ils allaient soit à McDo... ou chez Sam et Marion, pendant le culte, pour avoir un temps entre eux. Ils aimaient bien, je crois, avec Mathias. Et voilà, et du coup, en fait, tout ça pour dire qu'il a fallu un petit peu qu'on s'organise, qu'on se structure au fur et à mesure que l'Église grandissait, pour pouvoir vivre chacun un temps où on le vivait bien, quoi, les enfants comme les adultes. Mais on est, et c'est nécessaire, et merci Seigneur, mais on est aussi dans la volonté de ne pas chercher notre confort. Et que ça soit pas ça en fait qui nous motive. Oui, Dieu est un Dieu d'ordre, c'est pas un Dieu du chaos. Et il y a besoin d'organisation, mais on veut pas que le confort ça soit notre priorité. Et on veut chercher vraiment la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite, afin de l'accomplir. Et moi, j'ai envie de ce matin. J'ai envie de nous poser la question, c'est quoi nos motivations? Alors plus spécifiquement par rapport à la jeune génération, est-ce qu'on a des attentes pour eux? En tant qu'adulte, parce que Dieu nous donne une responsabilité, il nous confie une génération, qu'on ait des enfants ou pas, en fait, on a tous un rôle à jouer. Et, ou alors, est-ce qu'on se dit, c'est bon, ça va bien, on a organisé les choses pour que ça soit pas trop chaotique, pour qu'on puisse vivre ce qu'on a à vivre. Ou est-ce qu'on est prêt à être bousculé? Et ce matin, j'ai envie de vous embarquer avec moi, vous dire, attachez vos ceintures, il va y avoir peut-être des petites secousses. Mais par le Saint-Esprit. Et vraiment, je prie pour que vous receviez tout ce qui vient de Dieu, puisqu'il ne vient pas de Dieu, que ça reste au-dessus. Mais je pense qu'un des dangers qui peut nous guetter en tant qu'Église, et particulièrement dans nos églises de société moderne, occidentale, c'est un petit peu ce que j'ai appelé le nombrilisme. Le nombrilisme, c'est tout est centré sur moi. Je viens à l'Église parce que ça me fait du bien. Je fais des formations... pour pour me sentir mieux, pour grandir dans mon appel, pour m'équiper. Et puis je vais m'appliquer aussi dans ce qui me parle, ce qui me parle, et puis ce qui ne me parle pas, je vais pas m'appliquer dedans. Et attention, le deuxième A de notre vision, c'est apprendre à vivre comme Jésus. Et on a besoin de grandir, on a besoin d'être disciple, on a besoin d'être redevable, on a besoin d'être enseignable, on a besoin de traiter toutes nos casseroles parce qu'on en a tous et on est tout le temps en chemin. C'est hyper important, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi je le fais ? Est-ce que c'est pour me sentir mieux, juste, et puis je suis bien ? Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Et on est tous guettés par ça. Vous savez, cette année, moi, je fais deux formations, je fais Equip, et c'est extraordinaire, et je fais l'école des femmes, et c'est extraordinaire, et je vis des choses, j'ai des révélations, j'ai des percées, je vous encourage à toujours chercher à être enseignée, à vous former, parce qu'on a besoin de grandir. Mais on peut, en fait, être un petit peu en mode, je m'améliore, je me fais du bien. Et puis ça, parce que ça me fait du bien. Et en fait, c'est nous qui sommes au centre de tout ça. Et c'est plus pour transformer, pour amener le royaume autour de nous. Et en fait, c'est comme si la croix, elle est là pour moi. Alors qu'en fait, non, c'est moi qui suis là pour la croix. Si tu as rencontré Jésus, que tu as reconnu que tu avais besoin de lui, qu'il est mort à la croix pour te sauver, te pardonner, et que tu as choisi de le suivre, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as changé d'identité, tu es devenu enfant de Dieu, et tu es appelé un disciple. Et la mission du disciple, c'est quoi ? C'est de faire des disciples. En fait, on n'est pas disciple juste pour se sentir bien, ça y est, je suis sanctifié, et puis voilà, non. On est en marche, on est en mission pour faire des disciples. Et en fait, pour ça, on est équipé avec une arme, c'est l'amour. Et l'autre fois, j'écoutais un message et puis le prédicateur disait, à la fin de ta vie, quand tu vas arriver au ciel, Jésus ne va pas te dire, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, il va te dire, est-ce que tu as appris à aimer quand tu étais sur terre. En fait, on est là pour aimer. On est là pour déborder. Oui, on est transformé, mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Ça doit continuer, continuellement, pour qu'on puisse déborder de son amour et faire des disciples, et faire des disciples. C'est ça, notre mission. Et par rapport à la jeune génération, on a une responsabilité immense. Chacun d'entre nous, l'Église, et on va développer ça un petit peu. Mais pour commencer, je voulais lire le psaume 127, versets 3 à 5. Tu peux l'afficher, Mick. Super. Des fils, voilà bien l'héritage que donne l'Éternel. Oui, des enfants sont une récompense. Ils sont pareils aux flèches dans la main d'un archer, les fils de la jeunesse. Heureux est l'homme dont le carquois en est rempli. Il ne connaîtra pas la honte quand il plaidera contre l'ennemi aux portes de la ville. Alors, je vais décortiquer un petit peu ce psaume des fils, des enfants. Voilà notre héritage. Un héritage, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui est précieux. Ça nous est transmis. Hein ? Juste avant ce verset, les versets d'avant, c'est « Il est vain de vous lever très tôt, de vous coucher très tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. » L'héritage, ce n'est pas le fruit, c'est pas ce qu'on a mérité en travaillant. C'est un cadeau que Dieu nous donne. Les enfants, la jeune génération, c'est un cadeau. C'est notre héritage. Dieu nous les confie pour qu'on en prenne soin et pour les élever vers lui. Ça, c'est notre mission, les ramener au Père. Des flèches, hein, ils sont pareils aux flèches. Une flèche, ça va dans une direction, ça vise une cible. Dans la main d'un archer. L'archer, c'est nous. Et qu'est-ce qu'on vise ? Le ciel. Le carquois en est rempli. Heureux l'homme dont le carquois en est rempli. Ça veut dire que plus le carquois est rempli, plus, c'est une image du bonheur, c'est une faveur de Dieu. Et vous savez, le fait qu'il y ait autant d'enfants, autant de jeunes dans notre communauté, c'est une faveur de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et on n'a pas à en avoir honte parce qu'il y a une armée qui est nombreuse. Et les enfants, c'est souvent les grands oubliés dans la société. Peut-être c'est un petit peu moins marqué dans nos sociétés occidentales, dans les pays en voie de développement, c'est vraiment flagrant. Mais par exemple, même dans nos sociétés, les enfants, ils n'ont pas de poids politique. Ils sont rarement mis en avant, sauf dans les pubs, et ça marche bien généralement. Ils ont peu d'influence sur les pouvoirs politiques, et même souvent, ils sont utilisés, je dirais, en fait, parfois, voilà, sous couvert de bonnes intentions, mais en fait, ce n'est pas leurs intérêts propres qui sont défendus. Et quel que soit le contexte, ils font souvent l'objet d'une mission de moindre importance. Et quand il y a des catastrophes qui se passent dans les pays, la famine, la guerre, les maladies, et ben c'est souvent les enfants qui sont les premières victimes. Et c'est un petit peu pareil dans l'Église, où ils sont rarement mis en avant. Et j'ai essayé de me poser la question cette semaine, je disais, mais est-ce qu'il y a... On connaît tous des hommes et des femmes qui ont été utilisés par Dieu, qui ont eu un ministère, mais est-ce qu'on en connaît par rapport aux enfants? Moi, personnellement, très peu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un exemple. Comment? Heidi Baker, j'ai pensé à elle. Bill Wilson. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et dans l'Église, les enfants, c'est souvent un peu comme le ménage. C'est pas très vendeur. C'est difficile de recruter. Et pourtant, le paradoxe, c'est qu'on est dans une société où les enfants n'ont jamais été autant désirés. Même si c'est poussé à l'extrême. Un enfant, ça devient un objet. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est important de s'interroger. Pourquoi, en fait, il y a ce paradoxe entre à la fois les enfants, ils sont, même on parle de l'enfant roi, qui prennent toute la place, il y a ce déséquilibre, en fait, et en même temps, on voit qu'ils sont souvent mis de côté, ils ne sont pas appréciés pour qui ils sont. Et en fait, il peut y avoir des raisons purement humaines, la fatigue, les vies trop remplies, mais surtout, en fait, c'est important d'être conscient qu'il y a une bataille spirituelle, il y a un enjeu sur la vie de chaque enfant. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle vie qui arrive sur Terre, l'ennemi, il va dire, lui, je vais le faire venir dans mon camp. Et en fait, il y a un enjeu sur chaque nouvelle vie sur Terre. Parce qu'il va être soit dans le camp de l'ennemi, soit il va être dans le camp de Dieu. Et en fait, l'ennemi, il a bien compris ça. Il y a un enjeu énorme. Et je crois que parfois, on oublie en fait l'enjeu qu'il y a. Et je vais vous proposer un petit sondage. Vous allez avoir besoin de vos téléphones, de vos smartphones, pour ceux qui sont connectés. Mick, si tu veux passer. Vous pouvez scanner le QR code sur votre téléphone. Pour scanner, vous pouvez zoomer le QR code et puis il y a un lien qui va s'afficher. Vous appuyez dessus et sur votre téléphone, vous allez avoir la première question qui va apparaître. Ceux qui n'ont pas de smartphone, je vous ferai voter à main levée. Il n'y a pas de question, elle va arriver. On attend que tout le monde ait eu le temps de scanner. Il y aura écrit « Attendez quelques instants une fois que vous avez scanné », c'est ça? Allez, Mick, tu peux envoyer la première question. Alors, avant de répondre, écoutez bien. Quel âge aviez-vous la première fois qu'on vous a parlé de Dieu? Alors, je ne parle pas de... vous avez entendu en histoire à l'école, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. La première fois qu'il y a quelqu'un qui vous a parlé de Dieu et que ça vous a marqué, que ça vous a vraiment... Le premier souvenir, hein, ça peut être quelque chose un peu flou, mais à peu près, et puis vous pouvez répondre sur votre téléphone et on va voir. Voilà. Donc 70% entre 0 et 10 ans. 19% entre 10 et 18 ans et 12% entre 18 et 40 ans. Ça veut dire, ceux qui ont répondu à la troisième catégorie, avant 18 ans, jamais quelqu'un vous a témoigné de Dieu. Hein. Ça veut bien dire ça. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas de smartphone, qui ont envie de répondre? Quelqu'un qui a partagé sa foi. Quelqu'un qui a partagé sa foi. Toi, tu avais 21 ans, 22 ans? Ok. Mais vous avez vu que la majorité, quand même, se situe entre 0 et 10 ans. Là, on est à 75%. Ok, question suivante, ce sera la dernière. Quel âge avez-vous quand vous êtes devenu chrétien? Vraiment, quand vous avez fait cette démarche de conversion, vous avez donné votre cœur à Jésus et que vous n'êtes plus jamais revenu en arrière. Ça se stabilise, bouge encore un peu. Donc 12% entre 0 et 10 ans, 46% entre 10 et 18 ans, 36% entre 18 et 40, et 6% entre 40 ans et plus. Voilà, 47, 0 et 10 ans, entre 10 et 18 ans. Merci Mick. Les chiffres parlent. Est-ce que tu peux afficher la diapo d'après ? Voilà, ça c'est une étude qui a été menée par un groupe qui s'appelle Barna. La majorité des conversions ont lieu dans l'enfance avant l'âge de 14 ans. Près de 2/3 des chrétiens, ça c'est selon le groupe, mais on voit aussi dans nos chiffres, sont devenus chrétiens avant 18 ans. Et après 21 ans, selon cette étude, il y a seulement 21% des personnes qui se convertissent. Non, 23%, après 21 ans. Et à peu près 1/3 de la population mondiale sont des enfants adolescents ou des adolescents. Donc vous voyez, il y a un grand, grand champ de mission qui est là, au milieu de nous. On a tous été des enfants. On est tous passés par cette période-là. Et en fait, c'est très court sur la période d'une vie. Et pourtant, ça va déterminer énormément de choses. On a tous été marqués. C'est là qu'on se construit, c'est là qu'on a nos fondations, c'est là qu'il y a nos racines qui se mettent en place. Et en fait, impacter quelqu'un alors qu'il est un enfant, dans cette période de l'enfance, ça a le pouvoir de changer toute sa vie. Impacter l'enfance, ça peut changer toute une génération. Et je ne sais pas si vous êtes familier avec le principe de la première mention. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ? Le principe de la première mention, c'est très simple. La première fois que vous entendez une information sur un sujet que vous ne connaissez pas, ça va devenir votre référence. Ça va devenir le filtre à travers lequel vous allez analyser toutes les autres infos qui vont venir ensuite. Et bien sûr, ce principe, il est hyper, hyper à l'œuvre, hyper fort quand on est un enfant. Parce que c'est là qu'on apprend énormément de choses. Vous savez, il y a des recherches qui sont faites en neuropsychologie sur toutes les neurones des enfants qui sont énormes, beaucoup plus nombreuses. Enfin voilà, je dirais des bêtises si je m'aventurais là-dedans. Mais en tout cas, c'est vraiment un principe qui est hyper important dans la période de l'enfance. C'est pour ça que moi, j'encourage toujours les parents à enseigner leurs enfants sur tous les sujets, que vous soyez les premiers à semer dans leur vie, parce qu'après, toutes les autres infos qu'ils vont avoir sur ces sujets-là, ils vont les comparer. Attends, mais on me dit ça à l'école, mais moi, mes parents, ils m'ont dit ça. Et puis, ça va être leur référence à chaque fois. Donc, vous imaginez la responsabilité qu'on a de transmission. Qu'est-ce qu'on va transmettre aux enfants? Qu'est-ce qu'on va leur enseigner? Et si vous êtes un adulte épanoui, aujourd'hui, qui réussit peut-être dans plusieurs domaines, réfléchissez. Qui a investi en vous? Qui a cru en vous? Vos parents? Ou peut-être pas. Peut-être ça a été un prof, peut-être ça a été un grand-parent, peut-être ça a été un oncle, une tante, quelqu'un, un coach. Mais l'inverse est vrai aussi. Et souvent, on retient plus facilement la personne qui a pu avoir une influence négative sur notre vie. Ça nous marque. Et en fait, ce qu'un enfant va éprouver face à son avenir, c'est directement lié à ce qui se passe dans sa vie aujourd'hui. L'esprit de l'enfant, c'est comme du ciment frais. Quelle empreinte on va laisser? Quel que soit notre rôle, peut-être on est juste amené à lui parler une fois, hein, parfois, mais quel que soit notre rôle, on va laisser une trace. Et qu'est-ce qu'on veut laisser? Alors pour ça, on va regarder à Jésus. Parce que c'est notre modèle. Tu peux mettre le passage d'après, Mick. On connaît tous les paroles de Jésus, « Laissez venir à moi les petits-enfants », etc. Et puis quand on lit ce verset, souvent, il y a eu quelques images, quelques illustrations, tu peux les passer, Mick, j'en ai mis 3, qui peuvent nous venir. Voilà, des images assez, assez attendrissantes, mignonnes. Voilà, on voit Jésus qui est avec les enfants, puis on se dit, bah, ça pourrait faire une bonne image de campagne politique ou une pub. Et c'est vrai, hein, je ne dis pas que ce n'est pas une bonne image, mais j'ai envie d'aller plus loin que ça. Et pour ça, on va se replonger dans le texte. Parce qu'on peut passer à côté de beaucoup de révélations. Alors cet événement où Jésus il a dit ça, il est relaté dans 3 évangiles sur 4. Donc c'est suffisamment marquant pour qu'il ait la place dans 3 évangiles. Et ce que Jésus a fait ce jour-là, en fait, c'est extraordinaire. Il n'a pas agi pour se donner une bonne image, mais il a ouvert ses bras aux enfants pour révéler leur valeur. Et je vous invite à lire dans l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. Des gens amenèrent à Jésus de petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus le vit et s'en indigna. Laissez donc les petits enfants venir à moi. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Là-dessus, il prit les enfants dans ses bras, posa les mains sur eux et les bénit. Verset 14 nous dit que Jésus, il fut indigné. Indigné, ça veut dire qu'il s'est mis en colère. Ça tranche un petit peu avec les photos, les images qu'on a vues où Jésus est tout sourire. Il s'est mis en colère. Et pourtant, Jésus, c'était pas quelqu'un qui avait un tempérament colérique, impétueux, qui perdait son calme, qui perdait ses moyens comme nous, on peut souvent le faire. Et en fait, dans les évangiles, il y a 3 épisodes où Jésus se met en colère. Dans Marc 3, verset 5, c'est après avoir guéri un homme qui avait une main infirme le jour du sabbat. Le 2e épisode, c'est avec les jeunes enfants. Et le 3e épisode, c'est juste après ce passage-là, dans Marc 11, lors de la corruption dans le temple. Et Jésus, en fait, il était pleinement humain et pleinement divin. Et il ressentait les émotions. Et sa réaction, ça n'a rien à voir avec un soudain accès de rage. En fait, sa réaction, elle était pensée en avance, parce qu'il savait ce qui allait venir. Et pour mieux comprendre ce texte, c'est important de revenir au contexte. En fait, quand les gens amènent les enfants à Jésus, ils étaient en pleine discussion importante à propos du divorce. Et les pharisiens lui disaient, est-ce qu'un homme peut divorcer de sa femme ? Et les enfants, ils arrivent au milieu de ça, et c'était pas un débat pacifique, c'était les pharisiens qui cherchaient encore à faire dire des choses à Jésus pour chercher à le condamner. Donc il y avait, on imagine qu'il y avait de la tension, qu'il y avait, voilà, que ça se frottait, et c'était pas un débat paisible. Et au milieu, tout d'un coup, il y a des gens qui amènent ces enfants. Et alors là, les disciples, ils disent, non, c'est pas du tout le moment là, c'est vraiment trop mal tombé. Au milieu d'un débat théologique, les enfants, ils n'ont rien à faire là. Ils nous gênent, ils vont faire du bruit, ils vont empêcher Jésus de parler. Jésus, on lui a posé des questions, on veut qu'il nous réponde. Ils vont empêcher les autres gens de poser des questions. Et c'est parfois un petit peu ce qu'on pense, nous aussi. Et moi, la première. Du coup, on comprend les disciples qui disent « Non, attendez, là, c'est pas le moment. Peut-être après, Jésus, il ira les voir et tout. » Eux, ils pensaient que leur mission, c'était de rétablir l'ordre pour que, voilà, faire le service d'ordre un petit peu. On le voit bien ça dans The Chosen, pour ceux qui regardent la série, où ils sont là en train de, voilà, faire attention à ce que Jésus puisse parler, etc. Et pourtant, Jésus, il a une réaction complètement différente. « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant » n'y entrera pas. Alors si on décortique un petit peu ce verset, laissez venir à moi. Jésus accueille. Jésus accueille les enfants, ils ne sont pas trop petits. Il veut passer du temps avec eux. Il les considère et ils sont importants. Il veut les bénir. Il leur impose les mains. Ils ne sont pas trop petits pour recevoir l'imposition des mains. Il se met à leur hauteur et à leur portée. Il les prend dans ses bras. Il leur accorde du temps, même au milieu d'un débat théologique. Il les sert. Venir à moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les enfants, ils sont attirés à Jésus. Quand ils voient Jésus, les enfants, ils ont envie d'aller à lui. Est-ce que vous avez déjà remarqué que les enfants, ils sont très très sensibles à l'amour ou l'indifférence des autres, de leur père, mais surtout de nous, les adultes. Sans qu'on l'exprime, en fait, les enfants, ils vont tout de suite sentir si on s'intéresse vraiment à eux, ou alors sinon, ils nous font perdre notre temps. Il insiste deux fois dans la phrase. Il dit d'abord, laissez venir à moi, et après il dit, ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Jésus, qu'est-ce qu'il dit là? Il nous exhorte à devenir comme des enfants. Et il n'a pas dit, car il y a de la place pour eux dans mon royaume. C'est vrai qu'il y a de la place pour eux, mais ce n'est pas ce que Jésus a dit. Il n'a pas dit, car le royaume appartient à ceux qui accueillent les enfants. Même si c'est vrai aussi. Non, il a dit, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Il n'a pas dit aux enfants, grandissez un peu, attendez, devenez adultes, là vous êtes en train de me déranger, je suis occupée. Il y a plein de gens qui sont venus m'écouter, je suis en train de répondre aux pharisiens, il y a des gens qui ont besoin de guérison et vous, vous m'en empêchez. Il a dit aux adultes, devenez comme des enfants. Et vous savez, Jésus, il était très connu justement pour renverser les idées reçues, pour venir provoquer les choses qui sont toutes établies comme ça. Et il vient tout renverser aujourd'hui encore. Et ce matin, j'ai envie que vous imaginiez Jésus qui vous regarde et qui vous dit, deviens comme un enfant. Si tu veux entrer dans mon royaume, deviens comme un enfant. Dans le passage, le même passage, mais qui est relaté dans l'évangile de Luc au chapitre 9, versets 46 à 48. Avant la discussion sur le divorce, les disciples ils étaient en train de se disputer pour savoir qui était le plus grand parmi eux. Et dans ces paroles, Jésus leur dit plusieurs choses. Il leur dit faire une place, accueillir un enfant, ça équivaut à le faire à Jésus lui-même. Le plus petit parmi vous, c'est le plus grand. Ça veut dire quoi, le plus petit? C'est pas une question de taille, on l'a bien compris. Ça veut dire celui qui est humble, qui est innocent, qui a un cœur pur, qui est désintéressé, qui est confiant. C'est des choses qui caractérisent les enfants. Pas que. J'ai pas dit que les enfants étaient parfaits, mais c'est des choses qui caractérisent les enfants. Dans le texte, le même texte qui relate le même événement, mais dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, Jésus il dit « Changez d'attitude, convertissez-vous, devenez comme des enfants, sinon vous ne pourrez pas avoir accès au royaume de Dieu. » Des paroles encore plus fortes. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire de devenir comme des enfants? De quoi il parle, Jésus? Est-ce que les enfants sont parfaits et sans péché? Non. Il parle d'une humilité de cœur et de pensée. Il parle d'un esprit enseignable, hein, comme on disait, le principe de la première mention. Les enfants, on leur dit ça, mais ok, on y va, ils ne vont pas se poser la question 10 fois. Il parle d'une générosité gratuite. Moi, j'étais émerveillée, je ne sais pas, pour ceux qui étaient là vendredi soir, on a eu une soirée à ciel ouvert extraordinaire. Et moi, j'étais émerveillée de voir les enfants. Personne ne leur a dit. Ils ont été spontanément priés pour plusieurs d'entre nous. Et je crois qu'on a été plusieurs à être hyper touchés par cette générosité, par cette spontanéité. Ils ont soif, hein. Ils ont soif. Ils ont une foi simple, une confiance aveugle et un besoin irrépressible d'aimer et d'être aimé. Et c'est ça en fait que Jésus nous demande. Il nous demande d'avoir un cœur humble, d'avoir un esprit enseignable, d'être généreux gratuitement, d'avoir une foi simple, une confiance aveugle. Et d'avoir ce besoin d'aimer et d'être aimé. C'est dans les deux sens. Et Jésus, il a modelé de ça dans la façon dont il est venu sur terre, un bébé dans une mangeoire, dépendant de ses parents, inoffensif, humblement. Il a modelé ça par son ministère, sa vie auprès des plus petits, les pauvres, les malades, les rejetés. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. On se rappelle l'épisode où il lave les pieds de ses disciples, et ses disciples sont choqués qu'il fasse ça, mais il a modelé de ça. Et Jésus va plus loin pour montrer combien les enfants sont importants et qu'il les aime. Verset 6, « Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule qui font tourner les ânes et qu'on les précipite au fond du lac. » Ce n'était pas des paroles à la légère. Hein. Verset 10, « Faites attention, ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père céleste. » Et une armée d'anges pour chaque enfant. Et puis verset 14, la parabole de la brebis égarée. Il conclut en disant, « Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. » Ça nous renvoie à notre mission. C'est quoi notre mission auprès des enfants? C'est de les ramener au Père. Le cœur de Dieu, il est rempli d'amour pour cette génération. Et en tant que disciples de Jésus et en tant qu'Église, nous, on est appelés à les aimer. On a une responsabilité envers eux. Et comme je disais en introduction, c'est important en fait qu'on capte ce message. Ça ne veut pas dire qu'on va tous avoir la même place dans la vie des enfants. Ça ne va pas ressembler à la même chose, mais en fait, c'est important de nous aligner avec les priorités du cœur de Dieu. Et je crois vraiment que dans le cœur de Dieu, une de ses priorités, c'est cette génération. On est appelé à les considérer, à les protéger, à les servir, à les bénir, à prier pour eux, à prendre soin d'eux et à s'en inspirer pour devenir comme eux. Et moi, j'ai envie de vous dire que chaque enfant que vous croisez sur votre chemin, c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous que Dieu vous donne. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils sont là, ils ont hâte de nous rejoindre. Et cette semaine, j'ai écouté un message il y a une parole qui m'a bouleversée. La personne disait, ça rejoint un petit peu ce que Elvire nous avait partagé en janvier sur le fait de saupoudrer Dieu dans notre vie, dans nos activités. Est-ce que tu mets Dieu dans ton histoire ou est-ce que tu t'inscris dans son histoire? Est-ce que tu fais tes choix, tu choisis et puis hop, tu ajoutes un petit peu Dieu dans les différents domaines de ta vie? Ou alors est-ce que tu t'inscris dans ce que Dieu est en train de faire, et tu dis, Seigneur, ta volonté, je me soumets à ta volonté, et je suis prêt à te suivre, à saisir les opportunités que tu mets sur mon chemin chaque jour. Et parfois, ça, c'est déroutant, parce qu'on n'a pas de vision, nous, on aime bien tout planifier, etc., et puis ça nous déroute, parce que du coup, on perd un peu le contrôle, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver sur notre route. Mais c'est important d'avoir ce cœur ouvert. Et d'être là où Dieu nous demande, de faire ce que lui, il nous demande. Parce que c'est ça, en fait, la priorité. C'est de faire sa volonté, comme Nathalie nous l'a rappelé. Ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Et on a un mandat en tant qu'Église. On a un mandat de répondre, en fait, à cet appel que Dieu nous demande. De s'aligner avec son cœur, de s'aligner avec ses préoccupations, ses priorités, de se laisser interpeller par lui. Et moi, je vous encourage, j'ai pas de plan, Là, vous savez, on est en pleine, on est une équipe par rapport à ce qui se vit dans les enfants, dans les jeunes, on se réunit depuis plusieurs semaines, on prie pour ça, on sent Dieu nous parler, nous interpeller sur le fait de pas chercher notre confort, d'être prêt à être bousculé. Et on aura l'occasion de vous partager un petit peu ce que le Seigneur a déposé sur notre cœur. Mais ça ne concerne pas juste une équipe, ça concerne toute notre Église. Parce qu'on a tous, on est tous en mission ensemble pour faire des disciples. Et je pense qu'au-delà des choses qui vont découler concrètement de ça, en fait, c'est d'abord dans notre cœur qu'il doit y avoir cette repentance, qu'il doit y avoir cette soumission en fait, à la volonté de Dieu et ce réalignement avec ce qu'il nous dit. Alors je vais simplement vous inviter à vous lever pour finir. Et puis on va prier.